C'est le quatrième mois, c'est l'anniversaire du quatrième mois, on veut dire que nous sommes là. On est arrivé le 29 août. Donc le 29 décembre, c'était l'anniversaire en mois, quatrième mois. Je me souviens que quand on nous a cherché et qu'on est venu ici, ça a l'air encore plus long pour nous. Je ne sais pas si ça a l'air d'être très long pour vous. En tout cas, pour nous, ça a déjà paru être plus long que quatre mois. Ne me dites pas que c'est trop long déjà, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, que nous prions ce matin, cette pensée est venue dans mon esprit. On avait donc parlé des langages, de la variété, des accents, de toutes ces choses. Et ce qui est venu dans mon esprit, c'était si la glace n'avait qu'un parfum, ce serait vraiment ennuyeux. Vous êtes d'accord, non ? S'il n'y avait qu'un seul parfum de glace, ce serait vraiment ennuyeux. Pourquoi est-ce que je pense à de la glace pendant mon temps de prière? Mais est-ce qu'il faut que je travaille sur ma spiritualité ou quoi? Mais cette pensée est venue avec, c'est que c'est la beauté de cette Église, c'est la variété, la diversité, de venir tous ensemble dans un endroit pour prier un Dieu, un Sauveur, un Seigneur. Et dans la multitude des langages, mais on a prié en anglais aujourd'hui, mais il y a beaucoup, beaucoup de nationalités représentées, si vous regardez autour de vous. Et c'est la beauté de cette Église, et d'une Église internationale, c'est la diversité. Et je me disais cette semaine, alors que je me préparais à venir à l'Église, je me disais, j'ai vraiment hâte d'être là. Non pas que chaque dimanche, je ne vais pas devenir, hein, bien sûr, mais il y avait quelque chose de spécial. Et une des choses que ces pensées m'ont apporté alors que nous prions ce matin, je me suis dit, peut-être une raison pour laquelle j'aime venir ici le dimanche, c'est parce que c'est un petit avant-goût du paradis. C'est un petit peu comme ça que ça va être au paradis. Des gens de toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations qui adorent Dieu ensemble. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment être là et louer avec vous, adorer avec vous. Et donc, notre quatrième mois, le jour anniversaire de notre quatrième mois, je veux vraiment vous répéter merci d'avoir permis à Dale et à moi de venir ici, d'être vos pasteurs et femmes de pasteurs. C'est une vraie bénédiction. Nous aimons vraiment cela. Quatre mois, c'est court, je le sais, mais c'était vraiment une bénédiction pour nous. Alors, un grand merci à vous. Et je voudrais que vous ouvriez vos Bibles au livre de Colossiens, parce que je ne vais pas juste parler des langages et de la diversité ce matin. Je vais vraiment prêcher. Et je vais parler un peu de changement. Combien d'entre nous aimons vraiment le changement? Il y a plein de gens qui sont là, « Oh, j'aime bien tout ce qui change. » Et moi, je me dirais que plus on vieillit, moins on aime le changement. Hein. On aime bien notre routine, on aime bien que les choses soient les mêmes. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous aimez le changement? Ok. On a différentes personnalités. Hein. Moi, j'aime bien le changement. L'idée de venir dans un nouveau pays, de faire des choses différemment, d'apprendre différentes choses, c'était chouette. Et on apprécie vraiment cela. Même s'il y a beaucoup d'ajustements à faire et plein de choses à apprendre. Mais le problème pour moi, c'est si nous devons faire des progrès, nous devons changer. Un changement doit s'opérer. Une transformation doit être notre but. On l'a dans notre vision d'Église qui est retranscrite là-devant sur les panneaux. On veut une relation qui nous transforme avec Jésus. Et une des choses pour moi, c'est que j'aime bien les nouveaux départs. Et le nouveau départ que nous avons, c'est qu'on va commencer une nouvelle année. Et 2020 arrive. C'est dans quelques jours, vous allez célébrer mercredi, le premier jour de l'année. Et c'est excitant. J'aime bien les nouveaux départs. Je me souviens quand j'étais à l'école et qu'un trimestre, un semestre était fini, mes notes étaient derrière moi, je pouvais recommencer. Et j'avais un tout nouveau premier jour. Et certains d'entre vous aimaient bien penser au passé, ce semestre qui vient de passer. Mais quelle que soit la manière dont vous êtes, le changement doit venir dans nos vies pour que nous progressions. Et donc je pense à cette nouvelle année et comment on va pouvoir progresser. Et une des pensées que j'ai eues, c'est il y a des choses clés qu'il faut savoir. Si on veut voir nos vies transformées, ça commence dans votre esprit. Ensuite, ça s'étend à votre cœur et ensuite, ça déborde aux gens autour de vous. Ça commence par la manière dont vous pensez. Ensuite, c'est la manière dont vous sentez dans votre cœur. Et ensuite, c'est à l'extérieur que ça se voit dans la vie des autres. Et alors, je voudrais vraiment qu'on puisse considérer trois activités, trois actions qu'on peut appliquer à notre vie dans nos vies pendant cette nouvelle année. Donc, c'est trois étapes, si vous voulez, qui devraient changer votre vie et la vie des gens autour de vous. Alors, la première chose, c'est un livre pour transformer votre vie, votre pensée. Alors, Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre rencontre, votre reconnaissance à Dieu le Père. Il faut se souvenir que je veux que vous pensiez à ça pendant un instant, que la parole de Dieu est unique et remarquable. C'est remarquable dans son unité. 66 livres dans la Bible, 40 auteurs, 1500 ans, et pourtant, c'est vraiment cohérent et unifié pour comprendre et présenter un seul Dieu, une seule idée et une seule vérité. Et cette idée de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse, c'est celle-ci. Nous avons besoin d'un sauveur. Son nom est Jésus-Christ. Et Dieu nous sauve à travers Jésus-Christ. Les prophéties de l'Ancien Testament, toute l'anticipation et la lutte avec cette nation d'Israël qui était parfois avec Dieu et parfois en rébellion contre Dieu, mais toujours Dieu les aimait et les a amenés jusqu'au moment où il a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour nous, d'être ressuscité des morts, de siéger sur le trône céleste et d'établir une nouvelle alliance. Et le Nouveau Testament, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec lui et comment lui répondre. C'est tout ça, c'est à propos de Jésus et c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, ça parle de du souffle de Dieu. Au verset 16, il dit que la parole de Dieu et cette vérité a été soufflée pour nous. C'est très important de comprendre que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, c'est sa vérité. Quand on pense qu'il y a 80% des jeunes gens de nos jours qui ne croient pas dans une vérité absolue, et après ils se demandent pourquoi il y a de l'incertitude dans leur vie, pourquoi les gens ont tout le temps des doutes et des luttes internes, quand on ne peut pas trouver cette vérité dont notre vie dépend. Des gens qui disent « Oh, c'est ta vérité, pas ma vérité. » Mais moi, je vais vous dire qu'il y a, la Bible nous dit, il y a une vérité pour tout le monde, dans le monde entier. Et c'est pour ça que quand nous prions pour le père de John qui est en Malaisie, la vérité, c'est que Dieu est présent, il est partout. Et il révèle sa parole partout. Et je sais que quand je prie ici, en France, à Strasbourg, que le même Dieu à qui je prie est avec le père de John, parce que je crois, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité. Et nous croyons à cela. Nous avons la vérité. Et si on la comprend à travers notre histoire, que cette vérité, elle est venue avec un coup, un grand coup, Jésus l'a confirmé à confirmer les prophéties. Dans Ésaïe 53, par exemple, si on regarde toutes les promesses de Jérémie, dans tous ces endroits de la Bible, dans le psaume 22, qui parle de la souffrance de Jésus sur la croix, on réalise que Jésus-Christ est vraiment le point culminant et la réalisation de tous les espoirs. Mais quel a été le coût à payer? Qu'est-ce qu'il faudrait payer pour vous pour avoir une Bible à lire? J'ai regardé sur Google. J'ai vu que en français, on a. Il y avait des Bibles ici dès l'an 1500, quand Martin Luther était là, que Gutenberg a commencé à. D'ailleurs, il y a une statue de Gutenberg à Strasbourg, hein, si vous vous demandez. Vous allez voir la statue de Gutenberg, place Gutenberg, pas loin de la place Kléber. C'est grâce à ça que la Bible a été répandue, produite en masse, dans notre langue. Et William Tyndale, un des réformeurs de l'Église, en tout cas en anglais, il nous dit « Si Dieu épargne ma vie et que je vis longtemps, voilà, c'est du vieil anglais, hein. »
And he would be burned at the stake, or actually he'd be strangled, and then his body would be burned. Because he wanted to bring the Bible.
Il a dit, si Dieu me permet de vivre de nombreuses années, je ferai en sorte que les Écritures atteignent plus de gens qu'il n'a jamais été possible. Et on a effectivement maintenant la parole de Dieu partout autour du monde. Des hommes comme lui savaient que le message de Dieu était assez puissant pour changer des vies. Qu'il était essentiel et que chacun devait avoir accès à cette parole. Ça doit être lu. Ça ne peut pas rester un vieux livre poussiéreux sur une étagère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu habite en vous? Alors, bien sûr, il y a une application personnelle. Que la parole de Dieu habite, nous habite dans nos cœurs. Et c'est l'idée que sa parole et que sa vérité puissent vraiment s'imprégner dans nos esprits et nous transformer de l'intérieur. En Romains 12, 2, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre esprit. » Et ce renouvellement vient de la parole de Dieu. Qu'elle puisse vivre en vous richement, abondamment. Il y a aussi une application de la parole de Dieu, pas seulement dans chacun d'entre nous, mais ça doit nous remplir, ça doit saturer nos pensées de cette vérité, mais ça doit être aussi entre nous, dans notre communion fraternelle. Nous sommes le corps de Dieu, un corps de Dieu qui croit à la Bible. Nous enseignons ce que dit la Bible, nous parlons de la Bible, nous parlons de Christ dans la Bible. La Bible est pour nous le message de Dieu pour nous, de son amour gracieux. Ce n'est pas un dictionnaire où on y va juste quand on ne sait pas épeler un mot. Moi, j'ai une application sur mon téléphone qui est une version, une application de la Bible. J'ai aussi Google Traduction. Je suis désolé, Valpurga, qui est notre tuteur de français. Je sais que c'est pas bien, mais quand je ne sais pas, il ne faut pas regarder à Google Traduction, mais bon, des fois, je le fais quand même. Parfois, c'est OK. Ouais, bon, tu peux y aller là. J'ai la permission. Mais quand je regarde Google Traduction, c'est quand je ne sais vraiment pas un mot et que je regarde. Mais je ne vais pas regarder la Bible sur mon application de téléphone juste quand il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je veux le lire parce que c'est une conversation avec Dieu. Ce n'est pas un dictionnaire. Ou c'est pas juste quand on a un problème, on va voir dans la Bible. Attention, quand vous avez un problème, c'est bien d'aller dans la Bible. Mais c'est une conversation, c'est plus que ça. C'est de nourriture. Si vous n'en mangez pas, vous mourrez. Si vous ne mangez pas de nourriture, vous mourrez, d'accord? Vous êtes d'accord? Hein, il y a des médecins qui peuvent confirmer ça. On a besoin, vous avez besoin d'un scientifique pour vous dire que si vous ne mangez pas, vous mourrez. Et en fait, vous le faites naturellement. J'imagine que dans quelques heures, vous allez recommencer à manger. Enfin, dans quelques minutes. Et puisqu'on est en France, vous allez probablement avoir du fromage, du pain, et vous allez apprécier cela, parce que cela vous remplit. Et bien, la Bible nous remplit aussi, remplit notre âme, remplit votre âme. Et si vous ne nourrissez pas votre âme, vous mourrez spirituellement. C'est une nourriture formidable. Il n'y a pas de graisse, pas de cholestérol, pas de gluten, il n'y a pas d'allergène. Il n'y a rien. Moi, je suis allergique aux fruits de mer. Si j'en mange, je pourrais mourir. Mais il n'y a rien dans la Bible qui peut me rendre allergique ou me tuer. Tout est bon dans la Bible. Alors, vous n'aimez peut-être pas tout ce qu'il y a dans la Bible, parce que parfois ça vous rend un peu mal à l'aise. Et ça peut vous montrer votre propre péché, mais ça vous montre toujours le bon chemin vers Christ.
Et
grâce à cela, il restaure notre âme. C'est notre manuel notre guide d'utilisation pour la vie, notre manuel pour la vie.
Je me
souviens de mon père qui s'inquiétait pour beaucoup de choses. Ils disent, je dois ouvrir le livre, je dois ouvrir le livre. C'était un homme d'affaires. Il aimait le Seigneur, il était un des anciens de l'Église, un des chefs, mais il s'inquiétait. Et voici ce qu'il disait, il faut que j'ouvre le livre, il faut que j'ouvre le livre pour que je retrouve la perspective et que je me concentre sur Dieu. Il faut que je me reconcentre, que je me refixe les yeux sur Dieu. Et Martin Luther a dit, par mon raisonnement et par les Écritures, je suis coupable de ce que Dieu a révélé. Mais ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux pas et je ne veux pas rejeter quoi que ce soit. J'affirme cette parole plus qu'aucune autre. Si on veut commencer la nouvelle année bien, il faut être dans la parole de Dieu. Si la parole vit en nous richement et abondamment, des chants de louange sortent de nous. C'est aussi très concret. Si vous lisez le chapitre 3 et la fin du chapitre 3, le début du chapitre 4, ça parle du mariage, ça parle des enfants, ça parle des relations au boulot. C'est vraiment concret. Quand on réalise que ça s'applique à toutes les choses dans notre vie, il y a une chose. Est-ce que les gens font des bonnes résolutions? J'aurais dû demander ça. Est-ce que les gens font des bonnes résolutions en France? Est-ce que vous faites ça comme on fait aux États-Unis? Des bonnes résolutions? Oui. Je voulais m'assurer que je parlais de quelque chose que vous ne faites pas en France, mais oui. Combien d'entre vous avez arrêté de faire des bonnes résolutions? Voilà, c'est la deuxième question. Et pourquoi? Parce que, en fait, à un moment donné, dans le premier trimestre, ces résolutions commencent déjà à disparaître. Ah, je vous ai donné le bénéfice du doute. Hein. Je n'ai pas dit la première semaine, j'ai dit le premier trimestre. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, on fait des erreurs. Et si vous n'êtes pas encore dans cette routine et que votre résolution, c'est « Ah, je vais lire la Bible, je vais lire la Bible tout le temps !» et que vous commencez jamais, vous finissez jamais. Je pense que prendre une résolution d'être plus dans les Écritures, dans la Bible, auprès de Dieu, et de lire la Bible tous les jours, c'est la manière dont il faut prendre le problème. Il faut comprendre que le fait de lire la Bible, c'est une conversation, c'est écouter, c'est Dieu qui nous parle, c'est vraiment relationnel. On s'assoit avec nos Bibles, c'est pas une tâche qu'on doit accomplir, c'est un moment de conversation avec Dieu. Ça ne doit pas être basé sur la culpabilité de ne pas le faire. C'est pour nourrir notre relation. Donc on peut commencer avec des petites portions d'Écriture et des petits moments avec Dieu pour commencer à construire cette conversation quotidienne qui remplit notre esprit. qui devient une routine. Ça peut être quand vous marchez, ça peut être quand vous courez, quand vous vous asseyez, quand vous mangez. Ça peut commencer par un verset chaque jour. Ça peut commencer par un verset sur une application du téléphone. Il faut commencer quelque part et que ça puisse s'imprégner en vous. Que votre but d'avoir au moins un verset chaque jour de la Bible et laisser le Saint-Esprit vous guider. Il y a tout un tas de plans et de stratégies. Mais commencez petit, mais commencez quelque part. La parole de Dieu est votre vie. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Et la deuxième chose, c'est qu'il devrait y avoir au moins une prière. La prière vous change. La prière change les choses. Vous avez déjà entendu cette affirmation. La prière change les choses. Et c'est vrai. Nous prions. Nous prions pour que Dieu fasse un travail dans la vie de père de John, mais aussi dans la vie de John, que Dieu le fortifie alors qu'il est auprès de son père, en tout cas spirituellement, émotionnellement, et que Dieu change cette situation. Nous prions à propos de ces choses tout le temps, mais j'ai un challenge pour vous. La prière vous change, vous. Rappelez-vous de cela. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et quand nous prions, on prie avec une attitude, une dévotion. Il y a plein de choses qu'on peut prier. Il y a plein de super prières dans la parole de Dieu. La prière de Moïse, par exemple. Dans Exode, maintenant, révèle-moi ta gloire. Imaginez qu'il a dit à Dieu, oh, révèle-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Et qu'a fait Dieu ? Il a dit, si je te montre toute ma gloire, tu en mourrais. Mais je vais te montrerai ma bonté. Moïse était un ami de Dieu. Il avait une relation face à face avec Dieu. Mais même lui ne pouvait pas voir toute la gloire de Dieu. Il n'aurait pas survécu à cela. Mais Dieu a répondu à sa demande. Dans Éphésiens, Paul prie, je prie que les yeux de ton cœur soient ouverts, illuminés, que tu puisses voir et comprendre sa grâce, son amour, et que la même puissance qui a relevé Jésus d'entre les morts, que vous la connaissiez. Priez ça, que vous vouliez connaître cette prière. Dans Jean 17, ils disent, voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. C'est une super prière de grand prêtre, ça. Et dans 2 Pierre 1:3, son pouvoir divin nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie telle que Dieu la souhaite, à travers notre connaissance de lui. Il nous appelle par sa propre gloire et sa propre bonté. Et je pense que si on prie chaque jour en disant juste, Seigneur, je veux te connaître, je veux te voir à l'œuvre, je veux voir ta gloire, je veux que tu sois glorifié. C'est la même ouverture que la prière quand on prie le Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois glorifié et honoré et adoré, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Nous prions ces prières. Trouver un temps de dévotion et de prière, ça nous transforme. Les pensées de nos cœurs, les désirs de notre cœur commencent à changer. C'est pas de l'information. La prière, c'est pas de l'information. On ne dit pas des choses à Dieu qu'il ne sait pas. Hey Dieu, je voulais que tu saches un truc. Tu savais peut-être pas, mais voici ce qui se passe. Dieu sait tout, ok? Il sait déjà, il sait ce dont vous avez besoin. Il sait exactement ce que vous traversez. Et alors vous dites pourquoi prier? Et parce que vous intercédez pour d'autres et vous êtes dans sa présence en lui permettant à cette conversation de Dieu, que Dieu voit votre cœur et votre désir et aussi de conformer votre désir à son désir. Dieu transforme, nous transforme par la prière. Il nous purifie, il purifie la manière dont nous pensons. Dans Ésaïe, avait cette vision, il s'est écrié « Saint, Saint, Saint » dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a cette superbe vision de Dieu et de sa sainteté. Et quelle a été sa réaction dans la présence de Dieu ? Dans cette vision et dans ce temps avec Dieu, Ésaïe dit « Ah, je suis ruiné, je suis impur ». Et je vis parmi des gens impurs qui ont les lèvres impures. Et il a ressenti tout le poids de la culpabilité. Et un homme est venu et a dit, a mis un charbon sur sa bouche et a dit, tu es pardonné. Et Dieu a demandé alors, qui enverrai-je? Et Ésaïe a dit, ici, je suis là, Seigneur. Ça, c'est de la prière. Ça, c'est de la communion avec Dieu. Il a loué. Il a dit, Saint, Saint, Saint. Il a ressenti la culpabilité. Il a été purifié et il a été envoyé. Ça, c'est de la transformation. C'est ce qui se passe dans la présence d'un Dieu saint, d'un Dieu aimant. Quand on prie en disant « Je dépends de Dieu », rien n'est trop petit pour que je ne l'apporte à Dieu. Quand on prend un temps de dévotion proche de lui régulièrement, on voit les choses transformées. Quand j'étais enfant, Quand ma mère allait au magasin faire des courses, et on priait toujours pour une place de parking. Et je trouvais que c'était un peu, enfin, que c'était intéressant, quoi. Jusqu'à ce que je vienne à Strasbourg et que je comprenne. Et en fait, quand j'étais adolescent, vous savez, comme sont les adolescents, en disant « Ah, il ne faut pas prier pour le parking, c'est pas bon ». C'est une petite chose. Et comme j'ai dit, je suis venu à Strasbourg et maintenant je prie pour les places de parking aussi. Si vous pensez que c'est mauvais, dites-le-moi après le culte. Mais en tout cas, non, mais sérieusement, on peut apporter nos vies à Dieu, on peut apporter tout à Dieu, notre anxiété, nos challenges, nos difficultés, nos luttes, nos doutes. Seigneur, je suis là devant toi et je doute de quelque chose. Je ne sens pas ta proximité. Seigneur, où es-tu ? Et vous pensez que vous allez être foudroyé sur place quand vous dites ça ? Mais non, il est votre Père céleste, il vous comprend, il veut entendre ce qu'il y a sur votre cœur. Probablement, ce qu'il vous dit à ce moment-là, c'est « Merci d'être honnête avec moi ». Finalement, tu me dis que ça ne va pas, alors que d'habitude, tu me dis que tout va bien, alors que tu es en lutte et je le vois bien. C'est votre Père. Il lui dit, mais je suis votre Père, je suis celui qui vous aime, je veux savoir ces choses. Débarrassez-vous de tous vos problèmes. Dites-moi tout. Il faut venir dans une habitude de prière. Bien sûr que je ne vais pas te rejeter pour prier ta prière et prier ce qu'il y a sur ton cœur. Voilà ce qu'il va nous dire. Alors, quand priez-vous ? Alors, on lit dans 1 Thessaloniciens, priez sans cesse. Les prières de reconnaissance, avec une attitude de reconnaissance, de gratitude. La prière change des choses à propos de nous. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, on fait « Ah, je fais une prière, maintenant, et après, je vis ma vie d'une autre manière. » C'est une manière continue. La prière, ça peut être juste quand on marche, ça peut être un petit mot par-ci, par-là. Il y a des moments, effectivement, on se pose et il y a un temps qu'on met à part pour Dieu, mais ça peut être un peu tout le temps. Ça doit être comme respirer, la prière. Ça fait partie de cette relation permanente. On ne doit pas se préparer pour être dans la présence de Dieu. On ne doit pas remonter le mécanisme. Ça, c'est non, mais c'est pas dans mes notes, mais le traducteur doit me suivre là. Mais et parfois, on s'est dit qu'on doit remonter le mécanisme. Il faut que je fasse ci, puis ça, puis ça. Et ensuite, je vais faire ci et ça, et maintenant je peux prier. En fait, ça devrait être, Seigneur, Père, merci pour ma vie. Je suis en lutte. J'ai du mal. Montre-moi ce que je dois faire. Amen. Ça devrait être juste comme ça. Ça fait un moment, Seigneur, que je ne t'ai pas parlé et je sais que je dois un peu faire des choses pour revenir à toi. Non, il n'y a pas rien à faire pour revenir à lui. Parlez-lui. Parlez-lui. Il vous dira respectueusement, oui, je t'écoute. C'est Dieu, il vous aime. Des choses incroyables se passent quand nous commençons à prier. Ça peut même changer notre attitude par rapport aux autres. Il y a des gens que vous aimez. J'espère que vous aimez tout le monde, mais je me dis qu'il y a des gens que vous aimez peut-être pas. Et qu'est-ce qu'on fait alors à propos des gens qu'on n'aime pas ? Ou pas trop ? Ou qu'on aime moins ? On prie pour eux. Ah là là, j'aime bien prier pour les gens que j'aime. Ça, c'est facile. Non. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Pour ceux qui vous font passer des temps difficiles. Priez pour ceux qui sont perdus. C'est pas facile, ça vous plaît pas, mais priez pour eux. Vous savez ce qui se passe quand vous commencez à prier pour des gens avec qui vous êtes en conflit ? Dieu commence à changer. Pas à les changer eux. Hein ? Qui pensait que j'allais dire quand vous priez pour les gens que vous n'aimez pas, les gens, Dieu commence à les changer eux et ils deviennent gentils et tout va bien ? Non, c'est pas exactement ce qui se passe. Dieu vous change vous et votre cœur. Il commence à changer votre attitude. Alors, faire confiance à ce processus, ça va peut-être les faire changer eux, mais c'est d'abord votre attitude qui va changer. Dieu change votre cœur. Assez souvent, j'ai vu la colère et frustration avec d'autres personnes qui s'est évaporée dans la présence de Dieu quand j'ai prié pour eux. Et pour leurs besoins. Et Dieu a changé mon cœur et m'a donné de la compassion à la place. La troisième chose, une personne qui va peut-être transformer le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On parle de changement dans le monde. On pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour changer le monde. Mais c'est faux. Je pense que c'est faux. On peut changer le monde. Mais évidemment, c'est une personne à la fois. Il y avait un moment aux États-Unis où il y avait des leaders chrétiens, il y a quelques dizaines d'années, qui disaient « Si on pouvait prendre tous nos politiciens et les rendre chrétiens, on aurait un réveil sur notre terre. » Alors déjà, que tous les politiciens soient chrétiens et de faire des choses qui suivent Jésus, c'est un sacré boulot. Mais il se disait que si les leaders politiques montraient l'exemple, ça changerait un peu le pays et ça emmènerait un réveil. Mais je me suis dit, mais non. Non, bien sûr, évidemment, ce serait génial. C'est pas ce que je dis. Que chaque politicien puisse croire en Jésus, amen. Ce serait génial. Mais vous savez ce qui va vraiment apporter un vrai réveil, un renouvellement dans nos villes, nos villages et à travers le monde ? C'est que les églises prient pour que le réveil arrive et que le réveil arrive dans les églises. Et ça, à chaque fois qu'on voit un réveil vraiment arriver dans un pays, et je ne parle pas d'une semaine de prière qui s'appelle réveil ou revival, qu'on a des fois aux États-Unis, mais c'est l'idée d'une personne qui vient à Dieu, qui rencontre Dieu et qui développe une vraie foi. Et j'aime beaucoup cette prière. Il y avait une requête de prière qui disait « Priez pour que Dieu puisse ouvrir une porte pour notre message, qu'on puisse proclamer le mystère et l'amour de Dieu, le proclamer clairement comme je devrais le faire. » Donc l'idée là, c'est qu'on prie pour une opportunité. Verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et si on commençait à prier pour une personne cette année qui est loin de Dieu, mais qui est proche de nous? On en a parlé à la retraite et on a dit qu'on devait avoir nos trois personnes pour qui il fallait prier. Mais si on commençait déjà par une personne, qu'est-ce que ferait Dieu pour changer leur vie? Et ça vient non seulement avec une prière, mais une conduite, une sagesse. Que notre conduite ait un impact positif et non négatif. Comment est-ce que je peux influencer les gens de manière positive? Comment est-ce que je peux être un exemple positif de grâce et d'espoir? Comment est-ce que je peux être un proche, un prochain, puisqu'on doit aimer son prochain, qui aime son prochain? Il vous a fait tel que vous êtes, il vous a mis là où vous êtes pour que vous soyez un témoin de son amour. Il faut la sagesse pour la manière dont nous traitons les autres. Pour saisir chaque opportunité de faire le bien. L'idée, c'est que des opportunités vont venir. On va prier pour ces opportunités. Il faut que dans ces opportunités, on soit prêt. Qu'il y ait une question qui vienne d'un de vos proches et que vous ayez la réponse. Priez qu'il soit ouvert. Priez pour ces gens qui sont proches de vous. Ne vous inquiétez pas de l'étape, la prochaine étape. Commencez à prier et écoutez, et Dieu vous guidera. Voyez les gens de manière spirituelle. Alors, d'abord, ça va vous briser le cœur. Si vraiment vous faites ça et que vous marchez dans la ville de Strasbourg et que vous marchez dans la rue et que vous regardez les gens et les regardez d'un point de vue spirituel, ça va vous briser le cœur. Et vous allez prier. Dieu, que la lumière vienne dans cette ville, que la lumière vienne à nos amis, à nos collègues, à nos voisins. Seigneur, utilise-moi. Jésus a utilisé toutes ces opportunités. Que notre message, que notre parole soit remplie de grâce et de miséricorde. Certains d'entre vous pourraient me dire, mais Charles, t'es un pasteur, c'est ton boulot. C'est ton boulot de faire ça. C'est pour ça qu'on t'a engagé, c'est pour être la lumière dans les ténèbres. C'est facile pour toi, t'es le pasteur. Et je peux vous dire que la plupart des gens à qui je traîne sont chrétiens. Hein? Et j'aime beaucoup cela. Et il faut vraiment que je me force à aller vers les gens qui sont pas chrétiens, parce que j'en rencontre peu, mais il y a plein de gens autour de vous qui ont besoin de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Commençons à prier pour eux. Première étape, soyons dans la parole, restons simples, faites un premier pas, prenez un verset, une prière et une conversation continue avec Dieu et une personne pour que Dieu change leur monde. Et en changeant leur monde, Dieu va changer le monde si plus en plus de gens viennent à Dieu. J'aime beaucoup cette citation de C.S. Lewis. La chrétienté, si elle est fausse, n'a pas d'importance ou de puissance. Et si elle est vraie, elle est d'une importance infinie. Mais la seule chose que ça ne peut pas être, c'est d'une importance moyenne. Si c'est faux, alors ça ne sert à rien. Si c'est vrai, c'est d'une importance infinie. Ça ne peut pas être moyennement important. Il y a une nouvelle année qui vient. Faisons ce pas. Gardons les choses simples. Commençons au premier jour dans la parole, en prière, en étant plein de grâce et ouvert pour toucher les gens autour de nous. Père céleste, nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange parce que nous sommes là pour ton plaisir. Nous sommes là pour t'honorer, pour ta gloire et dans ton nom. Même malgré cela, Seigneur, fais en sorte que 2020, tout comme notre vision soit clair, que notre message soit au centre, ton message soit au centre de nos cœurs, que les conversations qu'on ait avec toi transforment nos vies, nous donnent la vie et soient fréquentes et soient continues, permanentes. Et que les gens autour de nous puissent recevoir tout ce qui déborde de grâce de nos cœurs. Seigneur, alors que nous terminons ce culte, et je vais vous demander, à vous qui avez baissé la tête en prière, pensez à une personne que vous connaissez qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus. Ne dites pas leur nom, hein, mais pensez à une personne au moins. Dans votre tête, dites son nom. Père Céleste, tu as vu tous les noms dans les cœurs et les esprits de mes frères et sœurs ce matin. Et Seigneur, je prie que tu puisses travailler dans la vie de tous ces gens, tous les gens à qui ils ont pensé, et que tu commences à changer leur vie et les amener vers toi, Seigneur. Que 2020 et 2021, qu'on puisse voir tous ces gens à qui on a pensé et puissent venir à toi. Seigneur, maintenant utilise-nous pour cela, dans le nom de Jésus. Amen.